Tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous présenter Le Monde au Féminin, une édition spéciale avec le docteur Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix 2018. Un prix remporté avec une jeune femme yazidi, Nadia Mourad, qui a été captive de membres du groupe État islamique et victime de violences sexuelles. Le docteur Mukwege est connu pour sa chirurgie pratiquée sur des femmes victimes de violences sexuelles dans l'est de la RDC. Voici donc cet entretien avec lui.
Vraiment, ma première réaction, c'était une satisfaction qu'enfin il y ait une reconnaissance de la souffrance des victimes de violences sexuelles. Et ceci donc nous amène à considérer avoir un espoir que leur besoin de réparation sera pris en compte et surtout aussi qu'on peut éviter, s'il y a d'autres victimes dans les conflits armés, d'abolir les viols comme armes de guerre.
Alors vous avez justement déclaré de la nécessité d'une juste réparation en leur faveur et de l'espoir de tracer une ligne rouge contre l'usage du viol dans les conflits armés. Quelle serait pour vous la juste réparation et qu'entendez-vous par ligne rouge ?
En fait, une juste réparation, c'est que les victimes de violences sexuelles, d'abord, nous devons tous reconnaître que ça arrive puisque le système ne les protège pas. Et donc, nous, la communauté humaine, nous avons une responsabilité de protection mutuelle. Et lorsque ceci arrive aux femmes dans les conflits, souvent ce n'est pas un fait du hasard. Aujourd'hui, c'est reconnu que ce n'est pas un effet collatéral de la guerre. Lorsque le viol est utilisé comme arme de guerre, donc c'est tout à fait intentionnel pour détruire l'individu, mais détruire également sa famille, sa communauté. Et lorsque la personne subit cette déshumanisation, cette humiliation, perd sa dignité, je crois que ça crée dans cette personne une perte de confiance en soi comme humain. Et il est de notre responsabilité, nous, la communauté humaine, de pouvoir réparer le tort que la personne a commis, puisque tout simplement, elle n'a pas été protégée. Et nous, ce que nous attendons par une réparation juste, ce n'est pas seulement réparer physiquement, ce n'est pas réparer psychologiquement, ce n'est pas aussi seulement réparer sur le plan économique ou social. Il faut absolument que la justice puisse s'impliquer, donc lutter contre l'impunité, pour que la justice puisse s'impliquer. Et lorsque la justice se prononce sur une situation de viol, ça doit aller jusque, la justice doit aller jusqu'à la fin, c'est-à-dire la réparation qui apporte une satisfaction à la victime. Et la ligne rouge, il est clair qu'aujourd'hui, on voit très bien que dans des conflits armés, l'usage du viol comme arme de guerre ou dans d'autres endroits où les femmes ont été considérées comme des butins de guerre ou tout simplement des esclaves sexuels pendant les conflits. Je crois que lorsque les belligérants se comportent de cette façon, nous avons besoin que la communauté internationale fasse comme elle a fait par le passé par rapport aux armes chimiques, par rapport aux armes biologiques, nucléaires, de pouvoir tirer la ligne qui n'est pas franchissable, donc pas acceptable qu'un belligérant utilise ce viol comme arme de guerre et qu'après on puisse dérouler le tapis rouge, et qu'on puisse la accueillir dans des conférences internationales, puisqu'il a gagné la guerre en utilisant une méthode qui déshumanise, qui humilie la femme dans le conflit. Et je pense que là, nous avons, la communauté internationale, à cette capacité de pouvoir indexer les personnes qui utilisent une telle arme. Et ça, c'est vraiment, ça serait tracer cette ligne rouge que quand quelqu'un l'a franchie, il sait très bien que la communauté ne pourra jamais les tolérer.
Vous avez donc reçu ce prix hein, comme Nadia Mourad, qui est une jeune femme yazidi qui a été victime de violences sexuelles par Daesh. Et vous avez été tous les deux récompensés pour vos efforts pour mettre un terme à la violence sexuelle utilisée comme arme de guerre. Et Nadia Mourad, elle a dit qu'elle voulait que les membres de Daesh soient jugés par la justice, comme ce que vous venez de dire, par de vrais procès et non pas une simple mort. Vous venez de parler donc de cette juste réparation et de la ligne rouge. Selon vous, par rapport à votre pays, que faut-il faire et que diriez-vous à la communauté internationale ou même au gouvernement, à votre gouvernement, par rapport à ce qui n'a pas été fait?
Vous savez, le viol, lorsqu'il se commet pendant les conflits, on ne peut pas se limiter à pouvoir dire tout simplement qu'on ne connaît pas les auteurs. Si on ne connaît pas les auteurs directs, on connaît les commanditaires. Et je crois qu'on a très très peu d'exemples où le commanditaire a été jugé, puisque les hommes qu'il a envoyés au combat, au lieu de combattre, ils se sont mis à violer, enlever, les kidnapper les femmes et les détruire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, la question de l'impunité, c'est une question cruciale. Nous avions quelques procès, mais malheureusement, c'est quelques procès où les victimes ont gagné le procès. Vous allez trouver que malheureusement, il n'y a pas de réparation qui suit après que les victimes ont gagné le procès. Et plusieurs cas malheureusement, n'ont pas bénéficié de procès équitables. Et il faut savoir que dans les conflits armés, pour les victimes, la première chose, ce n'est pas de conserver les preuves. C'est d'abord se protéger. Et c'est seulement lorsqu'elles se sentent en sécurité qu'elles vont chercher le médecin ou chercher le psychologue. Mais souvent dans les procès, quand on demande aux femmes qui ont été violées dans la forêt de présenter leurs preuves, c'est très compliqué. Et donc nous pensons que, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, il y a des cas où on connaît des commanditaires de ces viols, et ces commanditaires devraient répondre de leurs actes. Lorsqu'on ne connaît pas, mais on a toutes les preuves que les femmes ont été violées, ces femmes devraient quand même entrer dans une forme de réparation qui n'est pas judiciaire, mais une forme qui peut être imaginée et qui permette à ce que ces femmes quand même puissent trouver réparation avec satisfaction.
Mais alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez par exemple par rapport à, je ne sais pas, une certaine collaboration avec la justice, un processus automatique de réparation? Vous parlez également bon, de la justice, mais vous parlez de la réparation financière.
La réparation n'est pas forcément financière. La réparation, nous on avait fait, on a fait le tour du Congo. Et la plateforme qui avait fait le tour du Congo pour essayer de savoir qu'est-ce que les femmes attendent. J'étais très surpris de constater que les femmes, même dans leur pauvreté extrême, beaucoup demandaient plutôt qu'elles voudraient qu'on les voie ériger un monument pour que même leurs enfants, leurs petits-enfants puissent se rappeler de ce qui s'était passé pour que ça ne puisse pas se répéter. Il y en a qui ont demandé la construction des écoles, des églises. Il y a des réparations qui peuvent être individuelles, mais d'autres peuvent être collectives pour permettre à la population de pouvoir symboliser les actes qui se sont passés dans leur milieu. Et moi, je crois que lorsque les gens demandent des réparations individuelles, ça arrive aussi, s'il y en a qui les demandent, mais je crois que ce n'est pas forcément réparation financière ou réparation individuelle.
Docteur Mukwege, que pensez-vous du cas Jean-Pierre Bemba?
Une fois que la justice est prononcée, je crois que ça ne sert à rien de revenir sur le cas Jean-Pierre Bemba. La seule question et que j'avais posée à son temps, c'est que si lui a été acquitté, mais ses victimes sont là. On n'a jamais dit qu'il n'y a pas eu de viol en République centrafricaine. Mais qu'est-ce que nous faisons? Et c'est ça, ça pose vraiment la question que vous venez de me poser. C'est la vraie question pour toutes les victimes. Puisque lorsque vous, judiciairement, vous, en fait, le procès était mal, en fait, n'a pas été bien ficelé, et qu'à la fin, ce sont les victimes qui payent les frais, c'est comme si elles sont abandonnées à elles-mêmes. Elles ont le sentiment que finalement, même pourquoi nous avions porté plainte. Et je crois que là, vraiment, il y a des efforts à faire.
Docteur, parlons un peu de l'hôpital Panzi à Bukavu. Quelle capacité a cet hôpital? Pourriez-vous nous dire aussi le nombre de victimes que vous recevez encore aujourd'hui par jour? Le profil des victimes, s'il a changé?
L'hôpital de Panzi a 450 lits. Nous continuons à recevoir des victimes de violences sexuelles. Le nombre, au début, quand on était au sommet, c'était 10 patientes par jour. Aujourd'hui, nous sommes autour de 6 à 7 patientes par jour. Le grand changement que nous observons aujourd'hui, c'est que nous avons de plus en plus de mineurs et des enfants. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques de viol que nous commençons à traiter à l'hôpital de Panzi. Et puis, on voit très bien que les victimes ne viennent pas forcément des zones de conflit, puisque, en fait, le viol s'est répandu dans la société comme une métastase, et nous avons des cas de viol qui viennent de cités là où il n'y a pas de conflit armé. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des démobilisations, et avec ces démobilisations, des jeunes qui étaient formés à détruire, à violer, ont été démobilisés de l'armée et renvoyés dans leur foyer sans qu'il y ait une prise en charge psychologique leur permettant une réintégration dans la société correctement. Et c'est comme si, en fait, on a intégré le mal dans la société sous forme d'une métastase. Et aujourd'hui, vous avez des viols qu'on peut appeler des viols parmi les civils, mais en réalité, je crois que c'est un manque de prise en charge de personnes qui ont eu un lavage de cerveau pour violer, qui se retrouvent dans la société dans une autre forme de prise en charge qui aujourd'hui fait que ce mal est en train de s'éparpiller dans la société.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en
rediffusion.
Nous
savons effectivement, malheureusement,
VOA,
le viol
Afrique.
Est bien ancré dans la société d'une manière générale. Vous avez cette structure à Bukavu. Est-ce que vous avez l'intention d'en ouvrir d'autres dans d'autres régions de la République démocratique du Congo, voire dans d'autres pays qui auraient cette même nécessité?
Absolument. Je crois qu'à Panzi, déjà, nous avons déjà ouvert 2 structures, à Mulamba et à Bulenga. Mais nous avons vraiment l'intention d'ouvrir les mêmes structures. À Kinshasa, le besoin est énorme. Mais bon, pour le moment, on n'a pas le moyen de le faire. Mais je crois que c'est une priorité d'avoir un one-stop center où on peut donner les soins holistiques. Et ça serait vraiment important de pouvoir ouvrir des structures comme ça dans une ville comme Kinshasa, puisque, comme vous le dites, la violence sexuelle s'est ancrée dans la société et la meilleure façon de pouvoir aider les victimes, c'est de donner la possibilité d'accéder aux soins sans qu'elles soient traumatisées encore une fois lorsqu'elles viennent demander des soins. À l'extérieur, nous avons fait des missions d'exploration en Guinée-Conakry où nous avons déjà formé des psychologues. Les cliniciens sont venus pour un court séjour à Panzi pour voir comment nous travaillons. Nous avons également eu des médecins et des infirmières qui sont venus également pour voir comment nous travaillons. Et nous espérons que peut-être très prochainement, à Conakry, vont commencer ces modèles. Nous avions été aussi en République centrafricaine où nous avons fait des explorations. Le besoin est énorme, mais il faut des moyens pour pouvoir prendre en charge cette population à Bangui qui a vraiment besoin de ce type de soins holistiques. J'avais aussi fait une mission en Irak pour rencontrer les femmes yézidis. Et là aussi, le besoin est énorme. Donc, vous comprenez que partout, il y a eu des conflits. Malheureusement, les femmes sont en besoin, mais souvent, les structures manquent.
Docteur Mukwege, l'on comprend, et surtout après ce prix Nobel, que vous allez être encore beaucoup plus occupé. Nous connaissons bien vos journées de 18 heures de travail. Est-ce que maintenant vous allez déléguer un petit peu plus? Est-ce que vous allez pratiquer encore la chirurgie d'une moindre manière? Comment vous allez vous organiser?
Il est vrai que depuis l'annonce du prix Nobel, je prends beaucoup de temps avec les médias, mais je pense que ça sera pour une courte période, mais sinon je continue à consulter, à opérer. Certainement que peut-être il faudrait revoir l'agenda pour l'équilibrer, mais j'ai déjà une très bonne équipe et je suis très très fier de l'équipe des jeunes chirurgiens qui ont été formés ici à Panzi et qui vont opérer presque dans tous les Congos. Nous avons des équipes mobiles qui vont dans toutes les provinces du Congo pour opérer, pour faire les opérations des fistules, les vésico-vaginales ou digestives basses, et je crois que ça se passe bien.
Des petites questions politiques par rapport à vos récentes déclarations. Vous avez eu récemment un coup de gueule contre le gouvernement de la RDC, hein, par rapport notamment aux élections. Vous avez dit que la solution, c'est plutôt de lutter pacifiquement pour la libération totale de notre pays. Après cela viendra le temps des élections libres, crédibles et transparentes. Que vouliez-vous dire par là exactement?
Je me réfère tout simplement à l'article 64 de notre Constitution, parce que je considère que le pouvoir en place est illégal et illégitime, et normalement, c'est à tout Congolais qui a l'obligation d'arrêter toute personne ou groupe d'individus qui essaie de prendre le pouvoir par force. Et moi, je pense que après 2016, nous attendons le 23 décembre, on verra ce qui va se passer. Mais mon espoir est que les élections, si elles auront lieu le 23 décembre, que ce soit des élections qui seront acceptées par toutes les parties, l'opposition et le pouvoir. Mais si ça va être des élections qui ne sont pas apaisées, qui ne sont pas transparentes et que ça va nous amener dans un conflit supplémentaire, je crois que le peuple congolais est déjà très fatigué et que c'est la chose qu'il faut vraiment éviter en République démocratique du Congo. Ce peuple meurtri n'a pas besoin d'un conflit supplémentaire. Et à notre avis, lorsque le pouvoir n'a pas pu organiser les élections dans le temps imparti, ça serait logique que ce pouvoir puisse donner une transition qui permettrait d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles et qui peuvent ouvrir le Congo à une ère qui n'est pas de violence. Nous craignons beaucoup que si ceux qui vont aller aux élections ne font pas confiance à ces élections, qu'ils puissent nous plonger encore une fois dans des violences. Et vraiment, le peuple n'a pas besoin de ça.
Est-ce que vous allez voter le 23 décembre?
Je suis citoyen. Je suis enregistré, je vais voter, je suis citoyen. Mais je crois que ce que j'attends, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer. Ce que nous avons toujours demandé, c'est qu'il y ait des élections qui sont apaisées, des élections transparentes et crédibles. Et le 23 décembre, on verra le type d'élection qu'on va nous proposer.
Vous avez parlé aussi d'esclavage des temps modernes en République démocratique du Congo. Et vous avez aussi reproché aux dirigeants congolais de ne pas aimer les Congolais. C'était par rapport à, notamment en 2017 à la conférence des donateurs. Est-ce que vous pensez que cela a beaucoup fait de dommages à la RDC, cette attitude du gouvernement de refuser de l'aide extérieure? Et est-ce que vous-même, personnellement, vous en avez ressenti les effets?
Je crois que lorsqu'on me dit qu'il y a 400 000 enfants qui souffrent de la malnutrition au Kasaï et que je n'ai pas le moyen d'aider ces enfants et qu'il y a quelqu'un qui veut se porter garant, qui veut les aider, et que je refuse de, que ces enfants soient aidés, je ne sais pas comment vous vous interprétez ça. J'étais clair, je considérais que c'est un manque de compassion, c'est un manque d'amour pour ces petits enfants qui souffrent de malnutrition, et il y a quelqu'un qui tend la main pour dire, et demander, faire un appel des fonds sur le plan international, et que malheureusement, ça soit notre pays qui dise non, je crois que c'est un manque d'amour de l'autre, du prochain.
Docteur, ce prix, est-ce que vous pensez, parce que c'est le prix Nobel de la paix, est-ce que vous pensez que c'est le début de la vraie lutte contre les violences sexuelles?
Ça fait 20 ans que nous nous battons. Je crois que nous allons continuer à nous battre. Parce que comme je vous avais dit, il y a toute la question des réparations. Il y a aussi toute la question de l'abolition, que cette arme soit reconnue et qu'elle soit abolie dans les conflits armés. Comme je viens de vous dire, nous avons été en République centrafricaine à Bangui, on a vu ce qui s'est passé avec les femmes, c'est horrible. On a été en Irak, ça se passe de la même façon. Quand vous allez même en Syrie, en Colombie, je crois que nous devons être conscients que l'usage du viol dans les conflits armés, nous pouvons essayer de taire cette question, mais malheureusement pour les victimes, c'est un problème qu'elles portent toute la vie. Et quand vous rencontrez les femmes sud-coréennes, une fois, là vous comprenez très bien que ces femmes continuent à se battre dans des fauteuils roulants pour au moins qu'on puisse leur donner réparation. Et ce qu'elles demandent comme réparation, c'est reconnaître les torts qu'elles ont subis pendant la guerre et qu'elles se battent jusqu'à 95 ans. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Cette démarche d'amener notre communauté à comprendre la souffrance des victimes, accepter de réparer et se battre pour que cette pratique cesse dans les conflits, je crois que c'est un travail de longue haleine.
Vous avez rencontré Nadia Mourad, qui est également donc lauréate du prix Nobel. Que pourriez-vous nous dire sur elle? Est-ce que vous avez l'intention d'entamer ou de continuer, je ne sais pas, une collaboration avec elle au niveau de cette lutte, finalement, au niveau international?
Nadia Mourad, je la connais, j'ai déjà partagé des panels avec elle. J'ai eu beaucoup de discussions avec les femmes yézidis, et je pense que nous avons même l'intention d'exporter ces modèles que nous faisons à Panzi en Irak, où nous sommes encore en contact avec Yazda. Et je pense que ce que j'avais vu dans les camps des réfugiés, les femmes que nous avions rencontrées, elles ont vraiment besoin d'une prise en charge holistique. Et avec les femmes yézidis qui sont dans la plateforme que nous organisons, je crois que nos contacts avec l'Irak vont continuer certainement via Nadia Mourad.
Merci beaucoup, docteur Denis Mukwege, pour cet entretien avec la Voix de l'Amérique.
Arrête.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.